Donc, justement, un des malheurs de l'intelligentsia a été justement de produire un certain nombre de systèmes, de proférer des théories qui, sans se préoccuper, sans savoir quel était le répondant sensible de ce qu'ils avançaient. Et donc, on se trouve avec des idées sans forme. C'est bien le cas de Blanchot qui réduit ça à la négativité, une sorte de négativité en marche.
Négativité sans forme.
C'est ça.
Je peux vous proposer de lire le petit passage de mon valise dont on a parlé, parce que je trouve quand même.
Moi,
si vous voulez. C'est le début des dissipations.
C'est par les chemins divers que vont les hommes. Qui les suit et les combat verra d'étranges figures prendre naissance. Figures qui appartiennent, semble-t-il, à cette grande écriture chiffrée que l'on aperçoit partout. Sur les ailes, sur les coquilles des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et les pétrifications, sur les eaux qui gèlent à l'intérieur et à l'extérieur des roches, les plantes, les animaux, les hommes, dans les étoiles du ciel, sur les plateaux de résine et de verre frottés et mis en contact, dans les courbes de la limaille autour de l'aimant et dans les surprenantes conjonctures du hasard.
C'est très beau et c'est une épreuve de la présence de la pensée dans la politique.
C'est ça, aussi de voir que la pensée est partout, de surgir de partout. C'est-à-dire de simple observation des coquilles. On ne regarde pas que les coquilles. Voilà.
Vous avez cité le. Comment il dit l'escalier ténèbre, hein,
Hugo? Oui, l'escalier ténèbre. C'est-à-dire que ça va toujours vers le haut, vers l'intérieur, vers la profondeur.
En dehors de ça, il y a d'autres figures pour vous?
Oui.
Et vous parlez beaucoup de Jarry,
oui.
Vous nous en dire un petit peu plus.
Par
rapport par exemple à cette pensée du noir, pourquoi lui?
D'abord parce qu'il a plus que tout autre, il l'a vu avec cette sorte de, à la fois de violence et d'extrême voyance qui arrive quelquefois chez les tout jeunes gens. Et c'est pas pour rien que, donc il a 15 ans, hein, bon, quand Ubu, quand il travaille à Ubu, et Ubu est un concentré en quelque sorte de tout ce que, de toute la criminalité qui nous anime. Et effectivement, moi je suis fascinée par Jarry parce que cette sorte de noire de criminalité est au centre de tout ce qu'il va par la suite penser et écrire, et en particulier un livre qui est peut-être le livre que je préfère au monde et qui est sur Mal, parce que c'est une des réflexions les plus bouleversantes sur la question amoureuse. Justement parce que Jarry met la criminalité au cœur de la question amoureuse.
Est-ce qu'on peut dire, en me semblant que c'est quelque chose qui nous vient comme ça, qui paraît très contradictoire, est-ce qu'on peut dire que le noir c'est la chair? Alors c'est même que ça fait une image paradoxale.
On peut dire que le noir, c'est la chair, mais c'est aussi le vide, et puis c'est aussi le noir et dans la pensée, hein.
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est ça, puisque la pensée se nourrit de ça.
Et c'est aussi la question de la peur et du vertige.
Oui, bien sûr. Voilà.
Vous citez par exemple trois arrogantes à dire ce que des choses dures, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. C'est important maintenant, peut-être, c'est de ranimer.
Oui, là, il n'y a plus de peur dans la pensée. Ça, c'est, quand Günther Anders analyse aussi la société qui se met en place, il dit que nous allons mourir sous des flots d'innocence. c'est simple, ça. Tout le monde n'est jamais de la faute des personnes, donne-moi tout ce que tu veux, c'est comme ça. Et je vous l'ai dit aussi pour le noir, c'est que pour tous les contes de fées commencent, enfin, il y a toujours un affrontement avec la nuit, avec la forêt, avec le noir, avec les forces sombres. Donc ça n'est pas par hasard aussi le merveilleux se conquiert aussi à travers, en passant à travers ces contrées et ces paysages en jeu.
Bien sûr. Oui, j'en suis vertige là. Vous parliez du Dante en disant s'il veut du pouvoir, c'est qu'il ne peut se laisser arrêter par rien. C'est pas seulement qu'il le veut, c'est qu'il ne peut pas. Et est-ce que peut-être que du côté de certains penseurs ou de certains poètes, il y a pas forcément la volonté, mais pas la possibilité de faire autrement.
Je pense que oui, c'est aussi ce qui fait la différence avec une différence d'ampleur en quelque sorte. Parce que aussi, comme c'est pas par hasard que vous avez évoqué le vertige, mais il n'empêche qu'il y a aussi une sorte, quand on voit aussi bien dans la nature, dans la littérature, des êtres en contact avec cette force-là, on voit très bien qu'il y a une sorte d'accélération. Hein, et on sent bien ça aussi chez Dante, quand tout d'un coup ça s'accélère quand il va vers l'enfer. Et je crois que c'est ça dont il s'agit.
Non, mais plutôt du côté de l'impuissance, presque.
Oui, oui, mais il y en a qui peuvent pas. Mais il faudrait mieux que ne pouvant pas, ils n'essayent pas de raconter des histoires.
Voilà,
c'est ça. Bon, c'est comme si j'avais. Bon.
Oui, mais quand je disais impuissant, je n'entendais pas seulement ceux qui ne peuvent pas, pas pouvoir faire autrement. C'est
oui,
pas un pouvoir.
Oui,
c'est pas une faiblesse non plus.
Non.
C'est une impuissance active, ou je ne sais pas comment on peut dire, une impuissance qui essaye, ou je ne sais pas.
Oui, sans doute, on pourrait dire ça.
Sur ce qui frappe, quand, par exemple, quand vous parlez de Hugo, au début, quand vous parliez de Hugo, dans sa poésie, je ne voyais pas forcément tout ça. Par contre, dans ses dessins, là, le noir est omniprésent. Et souvent vertigineux, c'est souvent une présence fantomatique.
Oui, mais justement, ce qui est assez intéressant chez Hugo, bon, étant donné l'ampleur du personnage et le foisonnement de l'activité, c'est qu'on a à peu près toutes les phases et toutes les possibilités de rapport à ces forces-là. Donc par moments, il recule. Par moments, il ne peut pas. Et dans la poésie, souvent, c'est comme ça. En revanche, quand il commence à réfléchir, par exemple, dans le texte sur l'imagination, le rêve, le texte où sort le titre de ce livre, qui s'appelle Le Promontoire du son, extraordinaire, c'est vertigineux les phrases qui dit ce qu'il voit, ce qu'il met en jeu. Et aussi, pareillement, vraisemblablement, quand il y a beaucoup moins de contrôle chez lui, quand l'activité est moins contrôlée, alors là, il vous a carrément, et effectivement, dans ces fameux dessins, et puis là-dedans, alors là, c'est extraordinaire.
On a parlé tout à l'heure de la question de l'animalité. On a remarqué depuis, je dirais, une dizaine d'années, l'émergence de l'intérêt des philosophes pour la question de l'animalité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est à mettre aussi dans le grand entreprise de neutralisation et de récupération, justement, de neutralisation de la sauvagerie. Parce que ce qui est curieux, justement, dans toute cette réflexion-là sur la normalité, on n'aborde pas une des choses qui me paraît le plus importante quand, par exemple, quand Olivier aborde cette question, c'est la question de la métamorphose. Un des rapports à l'animal, une des fascinations de l'animal, c'est toujours la tentation de la métamorphose. Or, justement, il me semble que la réflexion philosophique a fait absolument l'économie de ça. Et du coup, bon, l'animal, j'en suis arrivée à dire que l'animal, maintenant, nous sommes d'animal domestique de la philosophie. Ça fait repenser un petit peu à côté, de voir qu'on est, de redéfinir de façon biologique l'humanité, et voilà. Et bon, on nous dort pas tout à fait comme ça, voilà. Et ça me paraît tout à fait insuffisant quand même.
C'est d'ailleurs presque pour se lancer, hein, forcément du tout ça, mais plutôt une tentative de mettre, je dirais, de l'humanité dans l'animal.
Oui, voilà. C'est une sorte de prolongation de l'anthropomorphisme qui ne veut pas s'appeler comme tel. Qui ne veut pas se déconner. Et là, on est très loin quand même de Rilke, qui justement dans le fameux poème où il parle de l'ouvert et que Heidegger a complètement, pas seulement détourné, mais a contrefait complètement la signification de ce poème-là, à un moment il dit que, en quelque sorte, il se sent lui traversé par l'oiseau, le vol de l'oiseau. Et c'est de ça aussi qu'il dit. Notre humanité, c'est aussi d'être traversé par le vol de l'oiseau qui se souvient.
Et vous avez remarqué aussi que ça se passe au niveau du regard, en fait, que l'animal est devenu, comment dire, déranger peut-être la réflexion du philosophe par le regard. Mais est-ce qu'ils se sont intéressés, par exemple, au corps de l'animal?
Non, justement, c'est ça la question de la métamorphose, pas du tout. Donc quelqu'un, quelque chose les regarde, quelqu'un, quelque chose de vivant les regarde. Alors ça les interpelle, comme on dit. Mais ça ne va pas tellement plus loin, c'est ça.
Et ben, un très beau texte de Derrida dans un de ses, je ne sais plus dans quel animal que donc je suis, je ne sais pas si vous avez vu ça, où en fait il est dans sa salle de bain, et où son chat le regarde et où il est gelé.
C'est
ton problème.
Voilà, on a fait beaucoup de choses. Je pense que ça va être bien touché quand même. Je voudrais dire quelque chose à propos de ça, et que c'est pour t'aider, Madette, puisque j'ai la chance de vous entendre. J'ai découvert avec bonheur, 15 ans après, tout près les images, ce que c'est qu'un éléphant. C'est un lévrier blanc.
Ah oui,
voilà.
Bon, ben c'est bien,
parce qu'il n'aurait
pas
fait votre dernier meeting. Non, et puis, je me suis très contente qu'il y ait des enfants aussi, parce que quand on me dit Annie Lebrun, pour moi, c'est toujours lié au fait qu'un enfant m'a traversé et que ça fait peur. Une nécessité qu'elle ait écrit Annie Lebrun et qu'elle parle, parce que sinon, je me sentirais pas en état d'assumer que cet enfant est né. Voilà. Alors je me suis dit, c'est drôle, il y a des enfants, il n'y a pas toujours des enfants à créer. Et c'est, pour moi, c'est comme une ligne de vie par rapport à votre présence. Voilà.
C'est bon. C'est important, c'est encore une fatalité.
Et bon, justement, aussi, elle est menacée, l'enfance, aujourd'hui. Hein, parce que. C'est aussi un, ça, par exemple, on devrait bien réfléchir au fait que tout d'un coup la pédophilie est diabolisée comme elle l'est, c'est-à-dire comme si c'était le seul crime sexuel existant. Or, vraisemblablement, cette mise en vedette de la pédophilie, c'est aussi, me semble-t-il, une façon de camoufler ce qui se passe justement sur l'enfance. C'est-à-dire qu'il se trouve que l'enfance, à ce qu'on assiste, que nos sociétés sont en train d'opérer une sorte de détournement de mineurs massifs par la marchandisation de tous les domaines de l'enfance, la profusion de toutes les activités enfantines, le matraquage qu'il y a sur les marques pour complètement aliéner les enfants. Et cette occupation du temps enfantin, c'est quelque chose pour moi d'absolument révoltant. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse même plus le temps de sorte de rêver, mais le temps de s'ennuyer. Parce qu'on s'ennuie aussi, on rêve quand on s'ennuie. Or, non, il y a une sorte, c'est la mobilisation continuelle, et il faut occuper cette enfance-là. Alors, par exemple, c'est pas pour rien cette histoire. En plus, il faut bien voir que au si la marchandisation de tout ce qui est destiné aux enfants aussi joue aussi sur une érotisation de l'enfance. Donc tout ça, c'est loin d'être loin d'innocence, là, en l'occurrence. C'est pas pour rien. Il me semble que là, c'est un processus classique de ce monde-là. On développe un discours qui sert à couvrir les nuisances, les modes d'asservissement qui se mettent en place. Il y a un discours qui a été vécu au réalisateur.
On peut dire peut-être pas d'un mot pour les autres, t'as autre chose. Pour les femmes aussi, c'est ça, justement.
Ouais, absolument. Bon, c'est aussi pour camoufler que si les femmes ont une liberté, c'est d'abord une liberté de consommateur. Et oui, ça ne peut pas
oublier ça. Vous m'avez dit tout à l'heure, on parlait de l'amour, et on va peut-être finir là-dessus, comme s'il y avait peut-être une confusion sur ce que vous faites, puisqu'on peut avoir l'impression que seul l'amour peut sauver certaines choses, mais pas n'importe quoi, n'importe quel amour.
Mais en ce qui est, oui, j'ai dit tout à l'heure, j'étais frappée, il y avait deux articles plutôt favorables sur le livre, et à la fin, on disait, oui, mais bon, elle conclut sur l'amour, et c'est un peu naïf. Alors, on peut penser ça très bien, mais il me semble que tout se passe comme si on n'avait pas regardé la façon dont je fais allusion à l'aventure amoureuse, c'est-à-dire que l'amour tel que si je ne suis pas pour rien, que j'insiste tellement sur Jarry et sur la criminalité que Jarry voit au cœur justement de toute aventure amoureuse, c'est pas pour rien non plus que je n'arrête pas de me réclamer de ça. Alors ce qui me paraissait curieux, c'est que justement ces personnes bien intentionnées, enfin, qui n'avaient pas spécialement de compte à régler avec moi, tout se passait comme si ils avaient aussi occulté la composante noire que je mets aussi au centre de l'amour. Donc c'est comme si ça y fait une preuve que quand même on est bien mal parti, puisque justement on est un certain nombre de gens assez riches, ne sont pas en état de voir justement que l'amour peut être autre chose que la soupe qu'on essaye de nous servir, parce que là aussi, il y a aussi à la fois une sorte de terrible grossièreté de la façon dont les rapports amoureux sont évoqués, et d'un autre côté, pour couvrir cette grossièreté, il y a une sorte de kitsch stupide, et en plus une rationalisation crétinisante, une phase aussi, de la chose amoureuse à travers cette psychologisation à laquelle on insiste aujourd'hui, c'est-à-dire que plus rien ne peut se passer sans qu'on ait besoin d'un psychiatre, des choses comme ça. Voilà, tout ça.
Donc en fait, Freud, lui, avait bien saisi la sauvagerie, la raison de son désir, etc.
Et donc là, c'est pas pour rien non plus que, quand même, dans la tête, arriver à la tête des ventes, c'est le livre de mon frère qui le fait de déboulonner les villes, en l'occurrence Freud. Et là, c'est quand même aussi très inquiétant.
Vous dites à petit au sujet de l'érotisme, rien ne va plus à l'encontre de l'actuel marché de l'érotisme, qui, avant même que le plaisir ait pu déterminer son objet, offre de quoi assouvir la pulsion.
Alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très grave, qui déjà a été repéré il y a longtemps par Marcuse avec ce qu'il appelait la désublimation répressive, c'est que pas seulement donné, pratiquement vous êtes imposé de quoi assouvir le désir avant même que vous sachiez quelle est la sorte de désir qui est le vôtre. Et c'est un peu comme si vous avez faim, mais on n'essaye même pas de savoir ce que vous avez envie de manger. On vous donne immédiatement, vous mettez le travail avant même d'avoir faim. Voilà. Et c'est aussi ça qui se... me paraît très grave aujourd'hui, parce que c'est comme s'il y avait une élimination du temps du trouble. Et ce temps du trouble est très important parce que c'est ce temps du trouble, c'est le désir qui essaye de trouver sa forme et de trouver sa singularité.
On va peut-être évoquer ce poème, je vous laisse le lire. Puis, un poème de Guillaume Mathieu d'Aquitaine, en l'an 1100, et qui a inspiré aussi en quelque sorte le titre, tu diras, en dehors de Hugo.
C'est d'abord Hugo, mais il n'empêche qu'à la fin, je me suis souvenue de ce poème, et qui est quand même quelque chose de tout à fait, à mon avis, extraordinaire. C'est aucun poème de Guillaume d'Aquitaine, écrit vers l'an 1900. Ferait un verre de juste rien, ne parlera de moi ni d'autres gens, ne parlera d'amour ni de jeunesse, ni de rien d'autre. Les trouver en dormant sur un cheval.
C'est vraiment magnifique. On termine avec peut-être un petit extrait, parce que vous dites dans le livre, vous avez commencé à écrire comme ça, rien dans les mains, rien dans la poche, comme vous dites. Qu'est-ce que vous vouliez dire? N'aviez pas un projet
Si, j'avais quand même c'est-à-dire que je ne me sentais pas bien, parce que en général, quand je pense que. Je crois toujours qu'on commence un peu à penser quand ça va pas. Moi, quand ça va bien, je pense pas beaucoup. Donc, mais je partais justement de cette situation où je me sentais complètement démunie devant, après avoir fait cette critique violente d'une autre réalité, et puis après. Donc, c'était un peu, je me suis dit, je n'ai rien dans les mains ou dans les poches. C'est comme ça que je suis partie. Et puis, en réfléchissant, ce n'était pas tout à fait ça, parce que l'expression « rien dans les mains, rien dans les poches », c'était une affaire de, on disait, donc, avant que les prestidigitateurs disaient, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait ça, voilà, que les parties comme ça, et du coup, après, quand j'ai trouvé la phrase d'Hugo, j'étais beaucoup plus satisfaite.
J'ai beaucoup utilisé les questions.
Oui, parce que je pense aussi que c'est ça aussi qui importe, parce que autant cette civilisation, j'ai fait allusion à une fois, et puis après j'ai développé dans les livres, qu'on a justement faute de perspective imaginaire, qu'on vit une crise de la représentation. C'est-à-dire qui empêche de prendre la distance par rapport à ce qui est. Donc c'est toutes ces productions de contrefaçon, de recyclage, de simulations qui peuvent définir à peu près tout ce qui se produit aujourd'hui sous forme d'art, alors qu'il me semble que à chaque fois, la forme imaginée n'est qu'une sorte de détour par rapport à la situation présente. On prend une sorte de distance pour y revenir, mais en ayant pris le temps de voir justement cette inhumanité qui nous hante.
C'est ça,
extravaguer. Et en même temps que extravaguer est à la portée de chacun.
Merci beaucoup. Merci à tous.